Prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, et la tâche d'un moine fidèle serait de répéter chaque jour, avec une humilité psalmodiante, l'unique inchangeable événement dont on puisse affirmer l'incontestable vérité. Mais « Videmus num per speculum et in aenigmate » et la vérité, avant le face-à-face, se manifeste par fragments, hélas combien illisibles, dans l'erreur du monde, si bien que nous devons en annoncer les signes fidèles, même là où ils nous semblent obscurs, et comme le tissu d'une volonté visant exclusivement au mal. Arrivé au terme de ma vie de pêcheur, tandis que chenu, vieilli comme le monde, dans l'attente de me perdre en l'abîme sans fond de la divinité silencieuse et déserte, participant de la lumière immuable des intelligences angéliques, désormais retenu par mon corps lourd et malade dans cette cellule de mon cher monastère de Melk, je m'apprête à laisser sur ce vélin témoignage des événements admirables et terribles auxquels, dans ma jeunesse, il me fut donné d'assister, en répétant tout ce que je vis et entendis, sans me hasarder à en tirer un dessein, comme pour laisser à ceux qui viendront, si l'Antéchrist ne les devance, des signes de signes, afin que sur eux s'exerce la prière du déchiffrement. Que le Seigneur m'accorde la grâce d'être le témoin transparent des péripéties qui eurent lieu à l'abbaye dont il est bon et charitable de taire même le nom désormais, vers la fin de l'année du Seigneur 1327, où l'empereur Louis descendit en Italie pour reconstruire la dignité du Saint-Empire romain suivant les plans du Très-Haut et pour confondre l'infâme usurpateur simoniaque et hérésiarque qui, en Avignon, couvrit de honte le saint nom de l'apôtre. Je veux dire, l'âme pécheresse de Jacques de Cahors que les impies honorèrent sous le nom de Jean XXII. Sans doute, pour mieux comprendre les événements où je me trouvais mêlé, est-il bon que je rappelle ce qui advenait en ce début de siècle, tel que je le compris alors, en le vivant, et comme je me le remémore maintenant, enrichi d'autres récits que j'ai entendus après, si ma mémoire est encore en mesure de renouer les fils de si nombreux et si confus prodiges. Dès les premières années de ce siècle, le pape Clément V avait transféré le siège apostolique en Avignon, laissant Rome en proie aux ambitions des seigneurs locaux. Et graduellement, la ville très sainte de la chrétienté s'était transformée en un cirque ou en un lupanar, déchiré par les luttes entre ses grands. Elle se disait république et ne l'était pas, battue par des bandes armées soumises aux violences et aux pillages. Des ecclésiastiques, s'étant soustraits à la juridiction séculaire, commandaient des groupes de rebelles et vivaient de rapines, l'épée à la main, prévariquaient et organisaient d'ignobles trafics. Comment empêcher que la Caput Mundi redevint, et fort justement, le but de qui voulait coiffer la couronne du Saint-Empire romain et restaurer la dignité de cette domination temporelle qui, jadis, avait été celle des Césars? Voilà donc qu'en 1314, cinq princes allemands avaient élu à Francfort Louis de Bavière comme suprême gouverneur de l'Empire. Mais le jour même, sur l'autre rive du Main, le comte palatin du Rhin et l'archevêque de Cologne avaient élu à la même dignité Frédéric d'Autriche. Deux empereurs pour un seul trône et un seul pape pour deux. Situation qui devint en vérité cause de grand désordre. Deux années plus tard, était élu en Avignon le nouveau pape, Jacques de Cahors, âgé de 72 ans, sous le nom précisément de Jean XXII, et, fasse le ciel que jamais plus aucun pontife ne prenne un nom désormais si haï des bonnes gens. Français et dévoué au roi de France, les hommes de cette terre, corrompus, sont toujours enclins à favoriser les intérêts des leurs et sont incapables de regarder le monde entier comme leur patrie spirituelle. Il avait soutenu Philippe le Bel contre les Templiers, que le roi avait accusé, injustement je crois, de crimes ignominieux pour s'emparer de leurs biens avec la complicité de cet ecclésiastique renégat. Entre-temps, s'était inséré dans cette trame sans pareille Robert de Naples, qui, pour garder le contrôle de la péninsule italienne, avait convaincu le pape de ne reconnaître aucun des deux empereurs allemands, restant ainsi capitaine général de l'État de l'Église. En 1322, Louis de Bavière l'emportait sur son rival Frédéric. Sa crainte d'un seul empereur étant encore plus grande qu'elle ne l'avait été de deux, Jean excommunia le vainqueur et celui-ci, en retour, dénonça le pape comme hérétique. Il faut dire que justement cette année-là avait lieu à Pérouse le chapitre des frères franciscains et leur général, Michel de Cézennes, en accueillant les instances des « spirituels », dont j'aurai encore l'occasion de parler, avait proclamé comme vérité de foi la pauvreté de Christ qui, s'il avait possédé quelque chose avec ses apôtres, cela avait été seulement comme « usus facti ». Digne résolution visant à sauvegarder la vertu et la pureté de l'ordre, mais fort mal accueillie du pape qui, sans doute, y entrevoyait un principe susceptible de mettre en danger les prétentions mêmes que lui, chef de l'Église, avait de contester à l'Empire le droit d'élire les évêques, prétendant en retour pour le Saint-Siège celui d'investir l'empereur. Pour ces raisons, ou d'autres qui le poussaient à en agir ainsi, Jean condamna en 1323 les propositions des franciscains dans la décrétale « Cum inter non nullos ». Ce fut à ce moment-là, j'imagine, que Louis vit dans les franciscains, ennemis du pape désormais, de puissants alliés. En affirmant la pauvreté de Christ, il fortifiait en quelque sorte les idées des théologiens impériaux, à savoir de Marcille de Padoue et Jean de Jandun. Et enfin, quelques mois avant les événements que je vais raconter, Louis, qui avait conclu un accord avec le vaincu Frédéric, descendait en Italie, était couronné à Milan, entrait en conflit avec les Visconti, qui pourtant l'avaient accueilli avec faveur, mettait le siège devant Pise, nommait vicaire impérial Castruccio, duc de Lucques et de Pistoia, et je crois qu'il faisait mal, car je ne connus jamais homme plus cruel, sauf peut-être Uguccione della Fagiola. Et à présent, il s'apprêtait à fondre sur Rome, appelé par Caracolona, seigneur du lieu. Telle était la situation quand, déjà novice bénédictin au monastère de Melk, je fus arraché à la tranquillité du cloître par mon père qui se battait dans la suite de Louis, non le moindre d'entre ses barons, et qui trouva sage de m'emmener avec lui pour que je connusse les merveilles d'Italie et fusse présent quand l'empereur serait couronné à Rome. Mais le siège de Pise l'absorba tout entier dans des préoccupations militaires. J'en tirai avantage en circulant, mi par oisiveté, mi par désir d'apprendre, dans les villes de la Toscane. Mais cette vie libre et sans règles ne seyait point, pensèrent mes parents, à un adolescent voué à la vie contemplative. Et sur la suggestion de Marcille, qui s'était pris d'affection pour moi, ils décidèrent de me placer auprès d'un docte franciscain, frère Guillaume de Baskerville. Ce dernier allait entreprendre une mission qui devait le conduire jusqu'à des villes célèbres et des abbayes très anciennes. C'est ainsi que je devins son secrétaire en même temps que son disciple. Je n'eus pas à m'en repentir, car je fus avec lui le témoin d'événements dignes d'être consignés tels qu'à présent je le fais et confiés à la mémoire de ceux qui viendront après moi. Alors je ne savais pas ce que frère Guillaume cherchait, et à vrai dire, je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Et je présume que lui-même ne le savait pas, mu qu'il était par l'unique désir de la vérité et par le soupçon, que je lui vis toujours nourrir, que la vérité n'était pas ce qu'elle lui paraissait sur le moment. Et en ces années-là, il était sans doute distrait de ses chères études par les devoirs impérieux du siècle. La mission dont Guillaume était chargé me resta inconnue tout au long du voyage, autrement dit, il ne m'en parla pas. Ce fut plutôt en écoutant des bribes de conversation qu'il eut avec les abbés des monastères, où au fur et à mesure nous nous arrêtâmes, que je me fis quelque idée sur la nature de sa tâche. Cependant, je ne la compris pas pleinement tant que nous ne parvînmes pas à notre but. Nous avions pris la direction du Septentrion, Mais notre voyage ne suivit pas une ligne droite et nous nous arrêtâmes dans plusieurs abbayes. Il arriva ainsi que nous virâmes vers l'Occident, tandis que nous aurions dû prendre vers l'Orient, comme pour longer la ligne montueuse qui, depuis Pise, mène dans la direction des chemins de Saint-Jacques, en faisant halte sur une terre où ce qui s'y passa ensuite me dissuade de la mieux qualifier, mais dont les seigneurs étaient fidèles à l'Empire et où les abbés de notre ordre d'un commun accord s'opposaient au pape hérétique et corrompu. Notre voyage dura 2 semaines, entrecoupé de moult vicissitudes, et au cours de ce laps de temps, j'eus la possibilité de connaître, pas suffisamment, comme j'en suis toujours convaincu, mon nouveau maître. Dans les feuillets qui suivent, je ne veux pas m'attarder à des descriptions de personnes, sauf quand l'expression d'un visage ou un geste apparaissent comme les signes d'un langage muet mais éloquent, car, comme dit Boès, rien n'est plus fugace que la forme extérieure qui fane et se métamorphose comme les fleurs des champs au début de l'automne. Et que signifierait aujourd'hui de dire que l'abbé Abbon avait l'œil sévère et les joues pâles, quand désormais lui-même et ceux qui l'entouraient sont poussière, et que de la poussière, leur corps a désormais la grisaille mortifère. L'âme seule, si Dieu le veut, resplendissant d'une lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Mais Guillaume, lui, je voudrais le décrire, et une fois pour toutes, car chez lui me frappèrent aussi les traits singuliers, et c'est le propre des jeunes gens que de se lier à un homme plus âgé et plus sage, non seulement pour le charme de sa parole et la sagacité de son esprit, mais bien aussi pour la forme superficielle de son corps qui se fait plus chair, comme il advient pour la figure d'un père, dont on étudie les gestes et le courroux, dont on épie le sourire, sans qu'aucune ombre de luxure ternisse cette manière, unique peut-être en son extrême pureté, d'amour corporel. Les hommes d'autrefois étaient beaux et grands. Maintenant, ce sont des enfants et des nains. Mais c'est là fait parmi tant d'autres, témoignant du malheur d'un monde qui vieillit. La jeunesse ne veut plus rien apprendre. La science est en décadence, le monde entier marche sur la tête. Des aveugles guident d'autres aveugles et les font se précipiter dans les abîmes. Les oiseaux se lancent dans le vide avant d'avoir volé. L'âne sonne de la lyre, les bœufs dansent, Marie n'aime plus la vie contemplative et Marthe n'aime plus la vie active. Léa est stérile, Rachel a l'œil charnel, Caton fréquente les lupanards. Tout est détourné de son propre cours. Dieu soit loué, moi, en ces temps-là, j'acquis de mon maître l'envie d'apprendre et le sentiment du droit chemin, qu'on garde quand bien même la sente serait tortueuse. La taille de frère Guillaume dépassait celle d'un homme normal, et il était si maigre qu'il en paraissait plus grand. Il avait les yeux vifs et pénétrants. Son nez effilé et légèrement aquilin conférait à son visage l'expression de quelqu'un qui veille, même si son visage allongé et recouvert d'éphélides, comme souvente fois je le vis chez les gens nés entre l'Hibernie et la Northumbrie, pouvait parfois exprimer incertitude et perplexité. Je m'aperçus avec le temps que ce qui paraissait manque d'assurance était au contraire et seulement curiosité. Mais au début, je savais bien peu de cette vertu, que je croyais plutôt une passion de l'esprit concupiscible, pensant que l'esprit rationnel ne devait pas s'en nourrir, comme il ne se repaissait que du vrai qu'on connaît déjà, argège, dès le commencement. Guillaume pouvait compter 50 printemps, et il était donc déjà très vieux, mais son corps infatigable se déplaçait avec une agilité qui me faisait souvent défaut à moi-même. Son énergie paraissait inépuisable quand il devait affronter un excès d'activité. Mais de temps en temps, comme si son esprit vital participait de l'écrevisse, il allait à reculons dans des moments d'inertie, et je le vis rester des heures durant sur son grabat dans sa cellule, prononçant à grand-peine quelques monosyllabes, sans contracter un seul muscle de son visage. En ces occasions-là, apparaissait dans ses yeux une expression de vide et d'absence, et j'aurais soupçonné qu'il était sous l'empire de quelques substances végétales susceptibles de donner des visions si l'évidente tempérance qui réglait sa vie ne m'avait pas induit à repousser cette pensée. Toutefois, je ne cacherai pas qu'au cours du voyage, il s'était parfois arrêté au bord d'un pré, à l'orée d'une forêt, pour recueillir certaines herbes, toujours la même, je crois. Et il se mettait à la mastiquer l'air absorbé. Il en gardait sur lui une petite provision et en mangeait dans les moments de plus grande tension, et nous en eûmes souvent à l'abbaye. Quand une fois je lui demandais de quoi il s'agissait, il dit en souriant qu'un bon chrétien peut parfois prendre des leçons même chez les infidèles. Et quand je lui demandais d'en goûter, il me répondit que les herbes qui sont bonnes pour un vieux franciscain ne sont pas bonnes pour un jeune bénédictin. Dans le temps que nous fûmes ensemble, nous n'eûmes pas l'occasion de mener une vie très régulière. À l'abbaye même, nous veillâmes la nuit et tombâmes de fatigue le jour, et ne prîmes point régulièrement part aux offices sacrés. Pourtant, rarement, en voyage, il veillait passé compli, et il avait des habitudes frugales. Quelquefois, comme il advint à l'abbaye, il déambulait toute la journée dans le potager, examinant les plantes, comme si c'était des chrysoprases ou des émeraudes, et je le vis rôder dans la crypte du trésor, en regardant un écrin constellé d'émeraudes et de chrysoprases, comme si c'était un buisson de stramoine. D'autres fois, il restait un jour entier dans la grande salle de la bibliothèque, en feuilletant des manuscrits, comme pour son seul plaisir, quand autour de nous se multipliaient les cadavres de moines horriblement oxys. Un jour, je le trouvai qui se promenait dans le potager sans aucun but apparent, comme s'il ne devait pas rendre compte à Dieu de ses œuvres. Dans l'ordre, on m'avait enseigné une toute autre façon de répartir mon temps, et je le lui dis. Et lui répondit que la beauté du cosmos est donnée non seulement par l'unité dans la variété, mais aussi par la variété dans l'unité. Ce me sembla une réponse dictée par un empirisme sans gêne, mais j'appris par la suite que les hommes de sa terre définissent souvent les choses de façon telle qu'on dirait que la force illuminante de la raison n'y a pas grand rôle. Pendant la période que nous passâmes à l'abbaye, je lui vis toujours les mains recouvertes de la poussière des livres, de l'or des enluminures encore fraîches, de substances jaunâtres qu'il avait touchées dans l'hôpital de Séverin. On aurait dit qu'il ne pouvait penser qu'avec les mains, chose qui alors me semblait plus digne d'un mécanicien. Et on m'avait appris que le mécanicien est moecus et commet un adultère au regard de la vie intellectuelle à laquelle il devrait être uni en un très chaste nœud. Mais quand bien même ses mains touchaient des pages consumées par le temps et friables comme du pain azyme, il possédait, me sembla-t-il, une extraordinaire délicatesse de tact, la même dont il usait pour toucher ses machines. Je dirais en effet que cet homme curieux emportait avec lui, dans son sac de voyage, des instruments que je n'avais jamais vus jusqu'alors, et qu'il qualifiait comme ses « merveilleuses machines ». Les machines, disait-il, sont effets de l'art qui singent la nature, dont elles reproduisent non pas les formes, mais la même opération. Il m'expliqua les prodiges de l'horloge, de l'astrolabe et de l'aimant. Mais au début, je craignis qu'il ne s'agît de sorcellerie, et je fis semblant de dormir par certaines nuits claires où il se mettait, un curieux triangle à la main, à observer les étoiles. Les franciscains que j'avais connus en Italie et sur ma terre étaient des hommes simples, souvent illettrés, et je lui fis part de mon étonnement devant sa science. Mais lui me dit en souriant que les franciscains de ces îles étaient d'une autre espèce. Roger Bacon, que je vénère comme mon maître, nous a appris que le plan divin passera un jour par la science des machines, qui est magie naturelle et sainte. Et un jour, par force de nature, on pourra faire des instruments de navigation grâce à quoi les bateaux iront unico homine regente et bien plus vite que poussés par des voiles ou des rames. Et il y aura des chariots qui iront vivement sans qu'aucun animal ne les traîne, et des véhicules volants guidés par un homme qui leur fera battre les ailes comme s'il s'agissait d'un oiseau. Et des mécanismes minuscules qui soulèvent des poids infinis et des nacelles qui permettent de voyager sur le fond de la mer. Quand je lui demandais où se trouvaient ces machines, il me dit qu'elles avaient déjà été faites dans l'Antiquité et certaines même à notre époque. À l'exception de l'instrument pour voler, que je n'ai pas vu, mais je connais un savant qui l'a conçu. Et on peut faire des ponts qui enjambent les fleuves sans colonnes ou autres appuis et encore d'autres machines inouïes. Tu n'as pas à t'inquiéter si elles n'existent pas encore, parce que cela ne veut pas dire qu'elles n'existeront pas. Et moi, je te dis que Dieu veut qu'elles soient, et déjà, elles sont sûrement dans son esprit, même si mon ami Dokam nie que les idées existent de cette façon, et non pas parce que nous pouvons décider de la nature divine, mais précisément parce que nous ne pouvons lui poser aucune limite. Ce ne fut certes pas la seule proposition contradictoire que je lui entendis énoncer. Mais même à présent que je suis vieux et plus sage qu'en ce temps-là, je n'ai pas encore compris comment il pouvait avoir une telle confiance en son ami Occam et à la fois jurer sur les paroles de Bacon. Il n'en reste pas moins que c'était là des temps obscurs, où un homme sage devait entretenir des pensées contradictoires. Voilà, j'ai dit de frère Guillaume des choses peut-être insensées, comme pour recueillir dès l'abord les impressions décousues que j'en eus alors. Qui il fut et ce qu'il fit, mon bon lecteur, tu pourras peut-être mieux le déduire de ce qu'il accomplit dans les jours que nous passâmes à l'abbaye. D'ailleurs, je ne t'ai pas promis une composition parfaite, mais bien une liste de faits, ça oui, admirable et terrible. Ainsi, en connaissant jour après jour mon maître et en passant nos longues heures de marche en de très longues conversations dont, le cas échéant, je parlerai, nous parvînmes au pied du mont où se dressait l'abbaye. Et il est temps, comme jadis nous le fîmes, que mon récit s'approche d'elle. Puisse ma main ne point trembler au moment où je m'apprête à dire tout ce qui ensuite arriva.